Bonjour et bienvenue dans l'Info s'éclaire J-9 avant le second tour. Une élection présidentielle très suivie chez nos voisins européens. Nous irons à Bruxelles, Berlin, Rome, Londres. Nous irons aussi en Afrique du Nord. L'Info s'éclaire est intitulée « La présidentielle française vue de l'étranger ». Chloé Ridel, bonjour, vous êtes directrice adjointe à l'Institut Rousseau, c'est un think tank, un laboratoire d'idées, hein, comme on dit en bon français. Vous serez notre grand témoin durant cette Info s'éclaire spéciale Tour d'Europe des capitales, puisque nous irons à Rome, à Londres, à Berlin, nous irons également en Afrique du Nord pour voir comment on perçoit cette élection française. Mais d'abord, je vous propose de commencer ce Tour d'Europe par nos voisins les plus proches sur le plan culturel. On va commencer à aller à Bruxelles avec Julien Gaspard-Hutto. Bonjour Julien, merci d'être avec nous en direct. Donc vous êtes le correspondant, hein, on vous connaît, de France Télévisions à Bruxelles. Alors d'abord, je dois reconnaître, on a pris la une de la Libre Belgique de lundi dernier. On s'est demandé si on en parlait. Bah, c'était la pleine page, la France divisée. Donc oui, je me doute, vu cette une, qu'on suit et qu'on s'intéresse à l'élection française à Bruxelles.
Ah oui, ça je peux vous le dire, et c'est d'ailleurs une tradition ici en Belgique. Cela fait des années, en fait, depuis toujours, que les Belges se passionnent pour la politique française. Il y avait une autre une d'ailleurs ce jour-là, celle du journal Le Soir, qui est l'autre grand journal francophone du pays. Là aussi, c'était pleine page, avec d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre Marine Le Pen, et ce grand titre, comme on se retrouve. Alors pourquoi eh bien, les Belges se passionnent tant pour la politique française? Ben, vous l'avez dit, il y a déjà cette proximité culturelle, géographique. Alors, ils s'intéressent surtout dans la partie francophone, car l'autre particularité, c'est effectivement d'avoir la même langue, et ça, c'est un autre critère important. Et c'est vrai qu'il faut quand même faire un distinguo entre cette partie francophone, donc plus au sud du pays, la Wallonie, et puis Bruxelles qui s'intéresse beaucoup, et puis la Flandre qui s'intéresse peut-être un peu moins, qui est peut-être un peu plus tournée vers les Pays-Bas. Mais ici, en tout cas, on s'y intéresse, il y a donc cette proximité, et puis il y a aussi, ça tient aussi au mode de scrutin, parce que vous savez, ici en Belgique, eh bien, c'est un scrutin à la proportionnelle. Les Belges votent pour des partis politiques qui tentent ensuite de se mettre d'accord pour former une coalition. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est souvent très long, c'est très fastidieux, ça peut prendre plus d'un an. Et donc ils le disent eux-mêmes dans la rue, quand on va les interviewer, ils disent bah, « en fait, la politique française, c'est beaucoup plus simple à suivre, vous votez pour une personne, une fois qu'il est élu, on sait comment ça va se passer, et c'est aussi beaucoup plus simple ». Et donc ça tient aussi à ça, ça tient aussi à ce mode de scrutin.
Mais ça veut dire qu'on connaît le personnel politique français. Encore une autre une, j'ai été frappé de la Libre Belgique, on voyait Valérie Pécresse. Donc en fait, les principaux personnages politiques français sont connus en Belgique.
Oui, effectivement. Alors ça tient aussi à autre chose, c'est que les Belges, de façon générale, s'intéressent beaucoup à l'actualité française, en dehors même de la présidentielle, si je puis dire. Ils regardent. Alors il y a les médias belges, effectivement, qui en partent, mais ils regardent aussi beaucoup les médias français. France Télévisions, par exemple, est un média très regardé ici en Belgique, la radio aussi, également. Ils lisent aussi beaucoup la presse française, et donc ils sont au courant de ce qui se passe chez nous. Les personnages politiques sont effectivement très connus. Durant la présidentielle, on a vu, c'est pas juste ces derniers jours en fait, hein, que ça fait la une des journaux. Si je prends le quotidien Le Soir, par exemple, encore une fois, qui est l'un des grands quotidiens, ça fait des semaines qu'ils sillonnent la France pour suivre cette campagne présidentielle. Tous les week-ends, ils ont fait des doubles pages sur des thématiques de la campagne, et ils ont parlé de tous les candidats, d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, qui sont peut-être les plus en vue, mais aussi d'Éric Zemmour, de Valérie Pécresse. On a vu des pleines pages sur est-ce que c'est la fin du Parti Socialiste en France. Donc vous voyez, ça dépasse effectivement bien au-delà les deux grands leaders qui sont présents au second tour.
Et Julien Gaspard-Hutto, ils s'intéressent au point, ils aimeraient pouvoir voter, et quand ils vous voient que vous êtes français, ils vous demandent pour qui vous votez, ils vous disent « ah bah moi j'aurais voté pour un tel ». Le dimanche, dans 10 jours à 20h, ils vont regarder le résultat en disant chouette ou oui, bravo ou...
Effectivement, ça je peux vous le dire, c'est exactement ça. C'est ce que me disait une consoeur journaliste ici, belge, hein, d'un média belge. Elle me disait en fait, les Belges, ils vivent cette présidentielle par procuration. Effectivement, ils discutent même entre eux. Alors, ils nous demandent à nous ce qu'on voterait, mais surtout, ils disent eux ce qu'ils aimeraient voter. Et pour vous dire, il y a même eu un sondage qui a été réalisé ici en Belgique il y a 15 jours, 3 semaines, pour savoir ce que les Belges voteraient s'ils pouvaient voter à cette présidentielle. Alors je vais vous donner les résultats, je vais reprendre mes notes. Mais donc si les Belges avaient voté à l'élection présidentielle, les scores c'est 54% pour Emmanuel Macron, 12% pour Marine Le Pen, 8% pour Anne Hidalgo et Éric Zemmour, 6% pour Jean-Luc Mélenchon. Valérie Pécresse, elle, n'aurait fait que moins de 1%. Vous voyez, donc bon, évidemment, c'est assez anecdotique, hein, mais ça, en tout cas, ça dit sur le fait que ces Belges se passionnent, effectivement, et vivent cette élection présidentielle par procuration. Et cette même consoeur nous disait aussi que, eh ben, par exemple, si vous souhaitez organiser un événement le soir du débat de l'entre-deux-tours, ça ne sert à rien, parce que tout le monde ici est devant sa télévision à regarder ce débat d'entre-deux-tours.
Mais c'est incroyable ce que vous dites, Chloé Ridel. 54% au premier tour, Emmanuel Macron en Belgique. Il va émigrer en Belgique.
Il devrait, c'est peut-être sans doute sur l'enjeu européen, mais quel est le regard que les Belges portent sur le second tour et la potentialité que Marine Le Pen soit élue ?
Question de Chloé Ridel, de l'Institut Rousseau.
Bah, ça, c'est effectivement très intéressant. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a quand même... Un aspect particulier qui intéresse aussi les Belges, c'est l'extrême droite. Enfin, en tout cas, dans la partie francophone, parce que l'extrême droite, elle est présente dans la partie néerlandophone du pays, en Flandre, mais dans la partie en Wallonie, en revanche, c'est quasi inexistant. L'extrême droite n'existe quasiment pas. Et donc, on regarde avec à la fois une certaine fascination et aussi une préoccupation ce qui se passe en France. Et donc, la montée des extrêmes, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup marqué ici. D'ailleurs, vous preniez pour commencer cette chronique le journal La Libre Belgique, eh bien dans l'édito de ce journal de lundi dernier, l'éditorialiste pointait du doigt justement cette montée des extrêmes en disant « Bon, finalement, c'est le même duel qu'il y a 5 ans, mais attention, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Les équilibres ont changé, les extrêmes ont monté. » Et donc ça, c'est quelque chose qui à la fois fascine, parce que bah, quelque part ici, dans en Wallonie en tout cas, on n'a pas cette expérience de l'extrême droite. Et en même temps, donc, ça préoccupe un peu. Donc c'est vraiment une thématique très forte. Et certains disaient même, ben, on regarde justement un peu comment ça pourrait faire à côté, ce que nous, on n'a pas ici.
Julien Gasparuto, c'est vrai que Bruxelles est aussi la capitale de la Commission européenne. Est-ce qu'on s'inquiète des conséquences d'une victoire de Marine Le Pen sur l'avenir de la construction européenne ? Est-ce que c'est aussi l'un des enjeux qui fait... que les Belges s'intéressent à cette élection française.
Oui, alors c'est deux choses distinctes, hein, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est l'autre partie ici, ce sont les institutions européennes qui sont juste derrière nous. Alors officiellement, tout le monde vous dira, pas de nervosité particulière, on ne prend pas la parole parce que bon, bah, on ne peut pas faire d'ingérence dans les autres pays. Mais en coulisses, on reconnaît quand même qu'il y a une certaine préoccupation, d'autant plus que... On va dire que le sentiment qui prédominait ces dernières semaines, c'était que, ici, dans les couloirs des institutions, mais aussi chez les autres leaders européens, tout le monde avait un peu le sentiment, finalement, qu'Emmanuel Macron serait réélu très facilement, sans grande difficulté. Et les résultats de dimanche dernier, eh bien, viennent montrer que, finalement, c'est pas si simple. Et donc, on adopte plutôt une certaine prudence, on va dire, à l'approche de ce deuxième tour, une certaine préoccupation aussi, vous l'avez dit, parce que, eh bien, forcément, on sait que ce scrutin français, il aura des conséquences sur la politique européenne. Si c'est Emmanuel Macron, c'est la continuité. Si c'est Marine Le Pen, eh bien, ce sera effectivement une rupture totale avec ce qui a été mis en place jusqu'ici.
Chloé Ridel, c'est l'un des enjeux. Si Marine Le Pen est élue présidente dans 9 jours, ce sera la douche froide, donc il faut dire les choses, pour l'Union européenne. On sait que bah, il y a 5 ans, elle voulait sortir de l'euro. Alors là, on parle d'un Frexit caché, mais Marine Le Pen réfute cette idée qu'elle souhaite sortir de l'Union européenne.
Non, mais vous avez raison qu'il y a 5 ans, les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que vous aviez une campagne entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui était très axée sur le thème européen, l'un se revendiquant de l'Europe et l'autre voulant sortir de l'euro, etc. Aujourd'hui, le débat n'est plus tant dramatisé par les candidats eux-mêmes que par le contexte de la guerre en Ukraine qui fait que, si Marine Le Pen est élue, effectivement, je ne crois pas que l'inquiétude se porte sur un Frexit progressif, même s'il y a des choses qui sont quand même préoccupantes dans son programme. Elle veut sortir du marché européen de l'électricité, par exemple. Et puis elle porte une idée de l'Europe qui est antagoniste avec celle que porte Emmanuel Macron et qui rejoint celle d'un Viktor Orban en Hongrie, qui est une idée identitaire, avec cette idée qu'il faut protéger la civilisation européenne en voie de disparition contre l'immigration, notamment extra-européenne, qu'il faut aller vers une Europe des nations. Vous avez une sorte de lutte interne de guérilla contre l'ordre juridique européen. Donc c'est sûr que cette perspective n'enchante pas la Commission européenne et puis les principaux partenaires de la France en Europe, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme la Belgique, on vient de le voir ici.
Oui, donc ça va être, c'est l'un des enjeux très importants.
Hein, c'est un enjeu très important et sur la guerre en Ukraine, ce qu'on peut voir, c'est que Marine Le Pen s'est opposée à l'envoi d'armes à la résistance ukrainienne et s'oppose aujourd'hui très fortement à l'embargo sur l'énergie russe au nom du pouvoir d'achat des Français, et ce malgré en fait les scènes qui nous viennent d'Ukraine et qui sont particulièrement tragiques. Donc ça poserait, il me semble, un problème d'unité du front européen face à la Russie si Marine Le Pen est élue, parce qu'on est dans un moment crucial où l'Europe peut basculer vers autre chose, vers plus de puissance, vers plus d'autonomie. Et le fait que Marine Le Pen soit élue, ça ne fera pas exploser l'Union européenne, mais ça ralentira cette mue européenne vers plus de puissance.
Julien Gasparuto, c'est vrai que cette élection intervient en pleine guerre en Ukraine. Comment d'ailleurs le travail de la France et d'Emmanuel Macron est-il apprécié, puisque la France préside en ce moment l'Union européenne? On sait que souvent la France a tendance à ou les Français ont tendance à vouloir tirer la couverture à eux. Comment le travail d'Emmanuel Macron est-il perçu depuis par vos collègues et par les instances européennes?
Alors déjà, ce qui est... Effectivement, la France préside le Conseil de l'Union européenne, mais la différence, par exemple, de Nicolas Sarkozy, qui, en 2008, présidait, la France présidait aussi le Conseil de l'Union européenne, mais à l'époque, il n'y avait pas de président du Conseil européen, comme Charles Michel. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même une différence à souligner, c'est qu'à l'époque, par exemple, Nicolas Sarkozy était allé négocier au nom de tous les Européens. Là, Emmanuel Macron, c'est différent. Et donc, il y a cette position, quand même, qui est un peu moins claire, mais c'est vrai que, clairement, il a pris... Il a tenté de prendre en tout cas une partie du leadership, peut-être avec Olaf Scholz aussi, pour aller négocier directement avec Vladimir Poutine. De ce point de vue-là, les initiatives prises par le président français sont plutôt bien perçues ici. Tout le monde, globalement, la majorité, estime qu'il faut continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine. Et donc, l'action qu'a menée Emmanuel Macron ces dernières semaines est plutôt bien perçue ici. On voit d'ailleurs, là, depuis quelques jours, depuis qu'il s'implique beaucoup plus dans la campagne présidentielle, qu'il est plus en retrait sur le dossier ukrainien. Et on sent ici, certains même disent que cette présidentielle, finalement, elle n'arrive pas au meilleur moment, puisque... on voit bien que Emmanuel Macron est partagé entre justement les intérêts européens, internationaux, et puis sa campagne présidentielle qui la ramène au terrain français.
Chloé Ridel, on a senti quand même au sein de l'Union européenne, on commence à voir des craquements, ça et là. Il y a eu des noms d'oiseaux qui ont volé entre Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais. Le Premier ministre polonais reprochant à Emmanuel Macron de discuter avec Poutine qui compare à Hitler maintenant. Est-ce que cette union sacrée qu'on avait vue au début, est-ce qu'elle se lézarde dans cette guerre en Ukraine, certains étant très anti-Poutine et d'autres voulant calmer le jeu, quoi.
Vous avez tout à fait raison, le front uni n'a pas duré bien longtemps, il a duré je pense 2 semaines. Mais là on voit que le président allemand a été déclaré persona non grata en Ukraine, c'est-à-dire qu'il voulait se rendre à Kiev. Le président Zelensky lui a dit non merci, sous prétexte que l'Allemagne serait trop soft vis-à-vis de la Russie, s'opposerait à un embargo sur le pétrole et le gaz russe. Et puis vous avez Emmanuel Macron qui continue effectivement à plaider pour une politique de dialogue avec la Russie, dont on ne sait pas très bien s'il a envoyé beaucoup d'armes à la résistance ukrainienne. Les autorités françaises ont maintenu un flou sur le sujet, alors même que la Pologne est très engagé, fait circuler des armes via son territoire, s'est rendu par 2 fois à Kiev. Là, hier, il y a eu une délégation menée par la Pologne avec les chefs de gouvernement des États baltes, etc., qui se sont rendus à Kiev. Donc le risque, effectivement, c'est qu'il y ait un schisme Est-Ouest qui se recrée, parce que c'est ça, hein, c'est ouais. Les pays de l'Est qui ont connu l'occupation soviétique par le passé qui adoptent une posture un peu plus franche et énergique. Je ne sais pas laquelle l'emportera à la fin, pour être clair. Je crois que la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie n'a pas apporté de résultats. Sincèrement, la politique de dialogue qu'on soutenait tous et qui est menée depuis 2018, enfin qui était quand même plutôt soutenue dans l'opinion française, n'a rien donné. On n'a pas été capable ni de prévoir ni d'empêcher cette guerre. Donc peut-être qu'on peut écouter d'autres voix et que nos voisins à l'Est ont quelque chose à nous dire d'important.
C'est dire si Julien Gasparuto, on va suivre en Belgique ce second tour. D'abord, alors il y a cette spécificité belge qui fait que vous avez les résultats avant nous. Est-ce qu'ils vont être donnés sur les médias belges? Ça les amuse d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des Français qui vous téléphonent pour avoir les résultats en avance avant les 20 heures?
Effectivement, c'est un peu une tradition ici avec ce hashtag Radio Londres. Alors, il faut quand même être prudent sur ces chiffres qui sont avancés par les médias belges avant 20h, parce qu'en fait, ce ne sont pas forcément des sondages réalisés en temps réel en France. Ce sont une moyenne des sondages réalisés dans les derniers jours. Ce sont donc des grandes tendances. Et par exemple, le dimanche dernier, lors du premier tour, les chiffres qui circulaient, c'était 24-24 Marine Le Pen et Emmanuel Macron au coude à coude. On a vu que finalement, à l'arrivée, c'était pas vraiment ça, qu'il y avait vraiment un écart entre les deux. Et donc, il faut rester très prudent. Mais c'est vrai que, on peut avoir en tout cas ces grandes tendances quelques heures avant. Et les médias belges, certains le disaient d'ailleurs, ils voient une affluence énorme sur leur site dans les heures qui précèdent le scrutin. Mais c'est vrai qu'il faut quand même préciser que, généralement, ces scores-là, et ça a encore été démontré dimanche dernier, diffèrent vraiment de l'estimation finale qui, elle, est réalisée vraiment entre 19h et 20h. Et donc là, on a le chiffre qu'à 20h comme en France, quoi.
Merci beaucoup Julien Gasparuto. Et donc votez bien dimanche, parce que j'imagine que toute la communauté française qui vit en Belgique va se rendre aux urnes dimanche prochain. Merci. On prend tout de suite le pouls en Allemagne. On retrouve Birgit Holzer. Bonjour madame, vous êtes correspondante pour plusieurs journaux régionaux en Allemagne. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute la façon dont la première chaîne allemande a parlé des résultats du premier tour. On écoute, c'était donc dimanche dernier.
Tout est possible au second tour et l'inquiétude est grande au sein de l'Union européenne quant à l'arrivée de Le Pen à l'Élysée, car elle n'estime pas beaucoup l'Europe.
Bonjour, donc Birgit Holzer. C'est vrai que, évidemment, Marine Le Pen, l'extrême droite, ça résonne avec l'histoire allemande. C'est pour ça que ce qui se passe de ce point de vue en France n'est pas anodin pour les Allemands.
Absolument. L'extrême droite en Allemagne, très longtemps, on n'avait pas de parti d'extrême droite en Allemagne. Effectivement, on a une histoire qui fait que c'est comme un signe d'alerte, en fait, d'avoir une extrême droite forte. Même si on s'est habitué depuis des années de voir Jean-Marie Le Pen, après Marine Le Pen, vraiment avec des résultats assez importants en France. Mais on voit aussi que par rapport à il y a 5 ans, c'est encore l'extrême droite s'est encore renforcée. Et du coup, en Allemagne, on commence à se poser la question, est-ce que ce serait une possibilité d'avoir une présidente d'extrême droite en France, qui est quand même le partenaire le plus important pour l'Allemagne?
Ah oui, ça veut dire qu'une victoire de Marine Le Pen marquerait un coup d'arrêt à la coopération. Enfin, les Allemands s'inquiéteraient de l'avenir de la coopération franco-allemande si Marine Le Pen devait être présidente de la République?
Absolument, parce qu'elle a dit elle-même, elle a dit qu'elle veut coopérer dans le secteur de culturel ou d'éducation, mais tous les projets de coopération, elle veut les stopper, elle veut les arrêter, et ça serait vraiment une rupture assez importante. Et surtout en ce moment, dans ce contexte où on voit qu'il faut avoir une Europe, un bloc européen, un bloc même occidental fort vis-à-vis la Russie, mais aussi de pays comme la Chine, à ce moment-là, dire qu'on affaiblit l'Union européenne, l'axe franco-allemande, ce serait vraiment donner un signal dévastateur, en fait. Vis-à-vis justement la Russie, vis-à-vis d'autres grandes puissances qui verraient que cette union, elle a des fissures.
Merci beaucoup Birgit Holzer pour ce regard allemand sur l'élection française. Chloé Ridel, on sait très bien que le couple franco-allemand, on parle est le moteur dans la construction européenne, à tel point que le président français, quand il est élu, premier voyage, c'est à Berlin, et vice-versa. Olaf Scholz, son premier voyage. Ce couple franco-allemand, il pourrait être remis. Enfin, je veux dire, une victoire de Marine Le Pen, comme vient nous l'expliquer Birgit Holzer, fragiliserait le couple franco-allemand.
Mais Marine Le Pen le dit elle-même. Hein. Elle pense que ce couple ne doit pas être une exclusive. Là-dessus, je pense qu'on peut tous la rejoindre. Mais c'est vrai qu'elle, pour elle, il n'y a pas du tout de couple franco-allemand. Il n'y a pas du tout de moteur. Et elle entend davantage en Europe gouverner avec la Pologne et la Hongrie qu'avec l'Allemagne ou l'Italie. Mais je crois que les Allemands, effectivement, ont beaucoup d'inquiétudes de voir Marine Le Pen arriver au pouvoir. Mais j'ai quand même envie de leur dire qu'en 2017, c'était déjà le même second tour et qu'après que Emmanuel Macron ait remporté l'élection en 2017 sur le thème européen, on a vu bien peu de signal côté Allemagne pour comprendre l'état de la France et pour faire des concessions. On se rappelle que peu après son élection, Emmanuel Macron avait fait une série de propositions européennes qui s'étaient opposées à quand même un non de l'Allemagne. Donc on avait l'impression que l'Allemagne n'avait pas tiré les leçons du second tour et qui là se reproduit. Donc ce que je veux dire, c'est que j'espère que cette fois-ci, les Allemands ont d'autant plus peur que Marine Le Pen soit élue, mais qu'ils retireront les leçons. Qu'est-ce que ça dit de la France et qu'est-ce que ça dit d'un certain peut-être malaise de la France en Europe qui les concerne.
Pour l'instant, Emmanuel Macron est donné gagnant et, comme le disait Julien Gasparuto, peu de gens imaginent une victoire de Marine Le Pen. Et pourtant, de la même façon, il y a 6 ans, en Grande-Bretagne, lors du vote du Brexit, le Brexit l'a emporté. C'est pour ça que je vous propose qu'on aille à Londres retrouver Maëlys Septembre. Vous êtes correspondante à Londres pour France Télévisions. Évidemment, tout cela résonne, alors j'allais dire, avec le vote surprise. C'était dans la nuit du 23 au 24 juin, quant à la stupeur générale, la Grande-Bretagne a voté en faveur du Brexit. Je crois qu'on avait un petit sujet, mais il n'est pas prêt. Peut-être me répondre en régie. Il n'est pas prêt. Est-ce qu'il va être prêt, me dit-on? Alors d'abord, ça y est, on regarde donc cette fameuse nuit du 23 au 24 juin, quand la nuit du vote du Brexit. On regarde.
Toute la nuit, les partisans du Remain ont espéré que la balance penche en leur faveur, mais en vain. De leur côté, ces partisans du Brexit ont attendu des verres de champagne à la main, l'annonce officielle des résultats. La sortie de l'Union européenne est pour eux un jour d'indépendance. Du nord au sud du pays, c'est une explosion de joie. Le pays est divisé, comme sur ce marché londonien. Les pro-Brexit sont soulagés.
Absolument formidable. C'est la meilleure nouvelle pour nous. Nous voulons que la Grande-Bretagne redevienne ce qu'elle était il y a quelques années.
Maëlys Septembre, on peut faire un parallèle entre une victoire de Marine Le Pen et cette victoire du Brexit dans la nuit du 23 au 24 juin 2016. Alors, une éventuelle victoire de Marine Le Pen, bien sûr.
Oui, tout à fait. Ici, au Royaume-Uni, on a l'expérience de ces surprises liées au vote. Ça a été le cas justement en 2007 pour le Brexit. Les sondages donnaient le camp du pro-Brexit, le camp anti-Brexit, au coude à coude, 45% d'intention de vote des deux côtés. Et puis finalement, c'est bien le camp du Brexit qui l'a emporté à 51,9% contre 48,1% pour le camp des anti-Brexit. Pardon. Du coup, on connaît bien ici cette expérience des votes surprises, des rebondissements jusqu'au dernier moment. Alors forcément, ici au Royaume-Uni, on parle beaucoup dans les journaux britanniques notamment. On rappelle cette marge d'erreur dans les sondages en France qui donne Emmanuel Macron gagnant à 54% contre Marine Le Pen 46%. Voilà, ici on connaît le fait que les marges d'erreur puissent justement évoluer, être un peu trompeuses parfois dans les sondages. Du coup, forcément, ça rappelle des souvenirs avec aussi cette variable importante, la mobilisation du vote populaire. Et c'est l'enjeu de l'élection présidentielle en France. Et ça a été aussi l'enjeu au moment du Brexit en 2016 ici.
Chloé Ridel, peut-on considérer que finalement, une victoire de Marine Le Pen, ce serait la suite du vote du Brexit? Ce fameux effet domino, il interviendrait 6 ans après en France avec la victoire de Marine Le Pen.
Je ne crois pas, parce que si Marine Le Pen est élue, elle n'aura pas été élue sur le Frexit. Donc ce n'est pas les mêmes enjeux, si vous voulez. Brexit, c'était clair, vous sortez. Là, si Marine Le Pen est élue, c'est davantage contre Macron, pour le pouvoir d'achat, enfin les thèmes de sa campagne. Donc on ne peut pas considérer ça. Et je crois que l'élection de Marine Le Pen ne conduira pas à un Brexit
un Frexit par défaut. Par contre, ça pourrait réorienter un certain nombre de caractéristiques de l'Union européenne. Elle même le dit, hein, elle veut transformer l'Union européenne de l'intérieur. Elle porte une autre idée de l'Europe. Donc peut-être que son élection pourrait infléchir certaines règles. Un certain nombre de règles, d'ailleurs, très nombreuses, mais n'aboutiraient pas, je crois, à une sortie de la France de l'Union européenne.
Maëlys Septembre, on a vu qu'en Belgique, ils connaissaient très bien le personnel politique français. Est-ce qu'on suit la politique française en Grande-Bretagne? On va voir la une du Guardian. Bon, mais on n'était pas tout en haut. On voyait que le Marine Le Pen versus... On voit que c'est... Ah bah si, quand même, c'était la pleine une, pardon, je me trompe. Marine Le Pen face à Le Pen pour l'avenir de la France. Ça intéresse les Britanniques quand vous dites que vous êtes française, ils vous parlent de cette élection?
Oui, justement, oui, depuis quelques semaines, et puis surtout cette semaine, c'est vrai que les Britanniques qu'on rencontre lors des reportages ou même dans notre vie quotidienne nous parlent souvent de cette élection française. On nous demande souvent, est-ce que vous pensez vraiment que Marine Le Pen peut gagner? Pour l'anecdote, lundi, par exemple, un chauffeur de taxi m'a posé cette question. Bien sûr, j'ai pas pu lui répondre, mais on sentait chez lui une pointe d'inquiétude, et puis il a fait le parallèle entre, c'est sûr, la campagne de Marine Le Pen, la campagne pro-Brexit, Boris Johnson, Nigel Farage, qui était le leader de UKIP et le partisan du Brexit, le leader de ce mouvement pro-Brexit. Et puis c'est sûr que les journaux, effectivement, ils en parlent beaucoup. Ils en ont parlé lundi, la une du Guardian. Mais c'est le seul journal qui a fait sa une dessus. Sinon, on était un petit peu plus loin dans les pages des journaux britanniques. Mais en tout cas, ils soulèvent tous l'enjeu de l'élection française pour les Français, mais aussi pour les Britanniques, puisqu'en fait, en France, on va élire finalement la personne qui va être l'interlocuteur du gouvernement britannique sur plein de sujets, notamment sur les sujets liés au Brexit.
Maëlys Septembre, on sait que Marine Le Pen aimerait qu'on la compare ou qu'on la considère comme le Boris Johnson français. Est-ce que néanmoins vous voyez des points de similitude dans le discours, dans l'attitude, dans les propositions politiques? Est-ce qu'il y a des points de ressemblance entre Marine Le Pen et Boris Johnson?
Alors, oui, il y a des similitudes. Après, il faut rappeler que Boris Johnson n'est pas d'extrême droite, mais c'est sûr qu'il mène une politique conservatrice, libérale, assez dure concernant l'immigration. Il a par exemple proposé hier un dispositif qui permettrait d'envoyer les migrants arrivés illégalement sur le sol britannique au Rwanda dans des centres d'hébergement. C'est une idée qui a été évoquée aussi par Marine Le Pen. Donc on a ce thème de l'immigration qui est prégnant dans les deux, des deux côtés. Mais tout en rappelant bien sûr que Boris Johnson n'est pas d'extrême droite. Et puis autre point qui pourrait penser qu'on pourrait les rapprocher, ce serait justement cette idée de s'éloigner de l'Union européenne. Mais il faut rappeler que Boris Johnson, à la base, n'est pas un pro-Brexit convaincu. En fait, il a plutôt défendu le Brexit dans un cadre d'opportunisme politique, et ça lui a d'ailleurs plutôt bien réussi puisqu'il est devenu Premier ministre à la suite, trois ans après le vote pour le Brexit. Et puis pour Marine Le Pen, c'est plutôt l'inverse. Elle défendait un Frexit en 2017. Et puis on voit cette année qu'elle est moins catégorique sur le sujet. Voilà.
Maëlys Septembre, Emmanuel Macron, on le sait, n'était pas très populaire en Grande-Bretagne. On sait que les relations franco-britanniques n'étaient pas au top. Il y a eu le sujet de la pêche, il y a eu Emmanuel Macron qui a eu des mots désagréables sur le fameux vaccin AstraZeneca dont les Anglais étaient si fiers. Est-ce qu'au fond de même, je veux dire, la popularité d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il est populaire en Grande-Bretagne ?
Non, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit très populaire ici au Royaume-Uni, que ce soit pour la population, mais aussi au niveau du gouvernement. On ne peut pas dire que Boris Johnson porte Emmanuel Macron dans son cœur, et vice-versa d'ailleurs. Bah, on se souvient par exemple en décembre dernier qu'Emmanuel Macron avait officieusement qualifié Boris Johnson de clown. Ça n'avait vraiment pas fait plaisir aux Britanniques. Et en même temps, globalement, depuis son élection en 2019, Boris Johnson, il n'a cessé de se batailler avec Emmanuel Macron sur plein de sujets, notamment liés au Brexit, les licences de pêche, les vaccins, l'immigration, avec parfois des menaces, par exemple sur le sort de l'Irlande, avec cette menace de déclencher l'article 16 du protocole nord-irlandais. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les médias britanniques, dans les journaux. On le voyait souvent, cette confrontation entre le Royaume-Uni et la France. Et en même temps, dans l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen, on ne peut pas dire que Boris Johnson aurait vraiment intérêt à dialoguer avec, avec Marine Le Pen plutôt qu'avec Emmanuel Macron. Il pourrait se retrouver face à un interlocuteur plus dur. Par exemple, en décembre 2021, Marine Le Pen avait déclaré concernant les licences de pêche qu'il fallait hausser le ton, qu'il fallait élever la voix contre le Royaume-Uni, qu'il fallait réclamer plus de licences de pêche, qu'il fallait être plus ferme, en clair. Du coup, on voit bien que Boris Johnson n'aurait pas forcément intérêt à dialoguer avec Marine Le Pen plutôt qu'avec Emmanuel Macron et que les relations et dans les négociations ne seraient pas forcément apaisées en cas de victoire de Marine Le Pen.
Et c'est la toute dernière petite question que je vais vous poser, Maëlys Septembre. Dans la tête de Boris Johnson, il souhaite quoi ? Il souhaite la victoire d'Emmanuel Macron ou la victoire qui viendrait renverser la table et qui serait un peu la continuité du Brexit, on l'a dit peut-être, hein, de Marine Le Pen ?
C'est difficile à dire, mais c'est sûr que si Marine Le Pen gagne, donc il va avoir un interlocuteur plus ferme en face de lui, qui va chercher à défendre peut-être même plus fermement encore les intérêts de la France par rapport aux intérêts britanniques. Donc dans les négociations, c'est pas vraiment dans son intérêt d'être plutôt en dialogue avec Marine Le Pen, même s'il n'apprécie pas forcément Macron, même s'il y a eu des petits points de bataille, des gros points même de bataille ces derniers mois. Dans son intérêt, il vaudrait mieux continuer à dialoguer avec Emmanuel Macron.
10h, Big Ben est en train de sonner. Merci beaucoup, Maëlys Septembre, en direct donc depuis Londres. Chloé Ridel, quand même, il faut s'interroger sur cette montée de ce qu'on appelle les votes populistes. En Grande-Bretagne, ils ont fait chavirer la Grande-Bretagne hors de l'Union européenne. Il y a eu Matteo Salvini, on ira en Italie tout à l'heure. Marine Le Pen qui, quand même, on envisage sa victoire. Ça interroge à Bruxelles ?
Bien sûr que ça interroge à Bruxelles, tant que ce n'est pas nouveau. Vous parlez de vagues, vous avez raison, mais moi je crois que c'est plutôt qu'une vague, une lame de fond. On dit souvent que ça résulte de la crise économique, financière de 2008, cette vague populiste. Mais en fait, ça fait 30 ou 40 ans que cette vague se prépare. Et elle est assise, cette vague, elle roule sur une plaine qui lui est favorable, une demande autoritaire, identitaire, qui a monté dans la société avec... Il y a des causes multiples, la désindustrialisation, l'angoisse démographique, le fait que la démographie européenne chute par rapport à celle du reste du monde. Tout ça favorise effectivement un vote d'extrême droite avec cette espèce de réclamation de reprendre le contrôle, etc.
Le Royaume-Uni est hors de l'Union européenne. Comment appréciez-vous cette sortie, je veux dire, en ce moment ? Est-ce que vous croyez que le Royaume-Uni regrette finalement d'être sorti de l'Union européenne à un moment où l'Europe se retrouve et se serre les coudes quand même face à cette guerre en Ukraine ? Ou au contraire, le Royaume-Uni se sent libéré et peut enfin être le Global Britain et d'ailleurs a des relations sur le terrain militaire assez fortes avec les États-Unis puisqu'ils veulent même la construire un missile ultra hypersonique avec... l'Australie et les États et les Américains.
Ce que je remarque, c'est que le Royaume-Uni a voulu s'échapper un peu des enjeux européens et se dire « moi, je suis global », mais qu'il y est sans cesse ramené. Parce que là, sur la guerre en Ukraine, vous avez vu que Boris Johnson est allé à Kiev se balade dans les rues, envoie des armes, se remémore de la résistance de Churchill. Enfin, Zelensky lui fait penser à Churchill. Ouais. Donc en fait, c'est un peu risible, parce qu'il voulait justement incarner cette Grande-Bretagne globale, mais je crois que... l'intuition était vraiment mal choisie, l'analyse était mauvaise. L'Europe reste leur principal partenaire commercial et leur principal partenaire militaire. Nous aussi, on est d'ailleurs proche des États-Unis de façon militaire. Il n'y a pas besoin de partir l'Europe pour ça. Donc je crois qu'il est un peu trop tôt pour dire si c'était une bonne idée, une mauvaise idée, le Brexit. C'est le destin que les Britanniques se sont choisis. Mais je pense qu'on a intérêt effectivement à rester arrimé à la Grande-Bretagne, notamment pour construire une défense européenne autonome forte.
Allez, on traverse la Méditerranée pour prendre le pouls au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Et pour cela, on se rend dans la rédaction de France 24 avec Ghassan Basile. Bonjour Ghassan. Avant de vous faire réagir, puisqu'on parle d'Afrique du Nord et que j'ai cité les trois pays, un point de géographie, un point d'histoire. Bourguiba a été le président... de la Tunisie. Pourquoi je dis ça ? Parce que hier, Marine Le Pen s'est un peu emmêlée les pinceaux. On va regarder l'extrait et vous me direz comment les Algériens et les Tunisiens ont réagi à la chose. Marine Le Pen a inversé les deux. On écoute, c'était hier sur France Inter.
On serait le seul pays à interdire le voile dans la rue, à interdire le voile aux femmes dans le métro, dans la rue.
Excusez-moi, mais enfin, M. Bourguiba avait interdit le voile en Algérie.
Voilà, et donc Bourguiba était président de la Tunisie. Ça a été relevé, ça, cette erreur en Algérie et en Tunisie, Hassan Basile.
Oui, en fait, on a toujours des réactions immédiates. Nous, quand on fait des impairs comme ça, c'est terrible.
Elle est suivie, cette élection, de façon d'ailleurs homogène, ou bien il y a des réactions différentes selon qu'on est au Maroc, en Tunisie ou en Algérie?
Dans les pays du Maghreb, l'hypothèse de l'élection de Marine Le Pen varie d'un gouvernement à l'autre, à commencer par l'Algérie et son passé douloureux avec la France, où l'on craint un durcissement dans la politique d'octroi des visas pour l'entrée en France, une problématique qui perdure depuis des lustres et qui ne risque pas de s'arrêter du jour au lendemain. Quant au Maroc voisin, sa première préoccupation est d'obtenir une reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une revendication à laquelle le Royaume reste fortement attachée. La Tunisie, elle, se débat avec ses problèmes aussi, problèmes économiques et politiques, et avec la dissolution du Parlement par le président Kais Saied, c'est le dernier épisode d'une grave crise politique qui sévit dans ce pays. Et puis, depuis l'été dernier, alors que son économie était en grande difficulté, il a choisi de la manière dure donc du pays, en fait, parce que il a fait une chose sûre, qui est que les citoyens ordinaires ne connaissent pas, et que certains politiciens ont été limogés du jour au lendemain.
Voilà. À vous entendre, Hassan Basile, cette élection serait mal vue, enfin une victoire de Marine Le Pen, et cette élection résonne mal, je veux dire, en Algérie, à Alger, parce qu'on se souvient aussi qu'Emmanuel Macron a eu des mots qui ont été mal reçus en Algérie, les fameux mots sur il a mis plus ou moins en doute l'existence de la nation algérienne avant la colonisation, il a eu des mots assez durs contre le régime algérien. Et finalement, on a vu d'Algérie, on se dit, mais ce sera encore pire avec Marine Le Pen, finalement. Est-ce que les relations entre la France et l'Algérie, elles sont, comment dire, la politique vient abîmer un peu plus ces relations déjà conflictuelles et difficiles?
Les relations sont compliquées entre l'Algérie et la France. Ça, c'est l'histoire qu'il a fait. Et de temps en temps, il y a des poussées de chaleur d'une partie ou de l'autre de la Méditerranée pour parfois une approche donc de ce qui s'est passé donc dans le passé en Algérie. Et donc voilà. Il faut faire avec et être très diplomate pour ne pas créer des crises.
La jeunesse d'Algérie ou du Maroc, hein, elle rêve toujours. Enfin, elle rêve. Comment voit-elle la France? Est-ce qu'elle a toujours envie de France, ou elle a envie d'horizon plus large, justement? Elle veut tourner la page. Je sais pas, elle aurait envie d'Angleterre, de Canada, d'États-Unis.
Oui, mais ça a baissé. Hein. Donc, il y a quelques années, c'était donc l'émigration, la traversée de la Méditerranée avec tous les dangers que cela comporte. Mais actuellement, les choses sont apaisées, et donc apaisées relativement. Et on a un flux de migratoire beaucoup plus important, beaucoup plus moins important, on va dire, que l'ordinaire, quoi.
Le conflit en Ukraine, comment est-il perçu dans les pays francophones d'Afrique? Parce qu'on a tous été frappés de voir que le Sénégal et l'Algérie se sont abstenus, n'ont pas voté, n'ont pas soutenu sont abstenus à l'ONU sur la proposition contre la guerre en Ukraine.
Oui, je ne sais pas comment cette situation va se développer, mais effectivement, ça crée un flou, où on ne sait pas ce qui se passe exactement. Donc depuis donc le départ des soldats de Barkhane, donc on est dans l'attente, et on sait que c'est un périmètre très dangereux en Afrique, et où il faut être très très vigilant aussi quand on y va, et quand on couvre aussi l'actualité dans dans ce périmètre.
Merci beaucoup, Hassan Basile, donc en direct de la rédaction de France 24. Chloé Ridel, c'est Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, qui disait, vous savez, nous vivons très durement cette guerre en Ukraine, en Europe, mais le reste du monde ne nous suit pas sur cette affaire. On est tous frappés de voir que l'Inde, je le disais, que l'Algérie, que le Sénégal, au fond, ils ne sont pas loin de dire pour nous, ce n'est pas notre affaire et c'est blanc bonnet et bonnet blanc.
Oui, vous avez raison, ça doit nous interpeller. On semble effectivement découvrir que le monde ne court pas à notre secours et ne soutient pas par ailleurs une mondialisation qui soit régulée par le droit, où on n'a pas le droit de transgresser les frontières par la force. Donc ça doit nous inquiéter. Et effectivement, je pense qu'on peut interpréter ces réactions de neutralité comme effectivement ça ne me concerne pas. J'attends de voir de quel côté la pièce tombe pour ne rien perdre.
D'anti-occidentalisme en disant mais vous avez fait la même chose en Irak et là ça vous a pas choqué?
Peut-être un peu, mais franchement cette position je la comprendrais pas, parce que c'est-à-dire que c'est pas parce que justement ils ont condamné l'Irak. Ouais. Condamnons aussi la Russie, c'est la même chose, vous avez raison de le dire. Mais à ce moment-là, ne condamnez pas l'un et ne rien faire pour l'autre.
Alors, il y a un pays où cette élection française pourrait faire et menace directement le gouvernement, figurez-vous, c'est l'Italie. Eh bien oui, parce qu'au sein du gouvernement italien, il y a des pros et des anti-Le Pen, et il y a des pros et des anti-Macron. On va tout de suite à Rome retrouver le correspondant de France Télévisions, Alban Micosi. Bonjour Alban, merci d'être avec nous. On va commencer justement, je vous propose Alban, par regarder votre sujet sur cette élection qui divise le gouvernement italien et qui pourrait même provoquer une crise politique à Rome dont seuls les Italiens ont le secret. On regarde ce sujet avec Laura Tositi.
Le gouvernement italien survivra-t-il aux élections françaises ? La question peut paraître surprenante, et pourtant. À peine connus les résultats du premier tour, que Matteo Salvini formulait des vœux en faveur de Marine Le Pen, fier de sa réussite, de ses idées et de son amitié. En même temps, Enrico Letta, le chef de la gauche, lui répondait que l'Europe pourrait disparaître si le Rassemblement national arrivait à l'Élysée. Le problème, c'est que la coalition gouvernementale s'appuie principalement sur ces deux formations. Les relations diplomatiques entre la France et l'Italie se sont beaucoup améliorées depuis 2 ans, avec en point d'orgue la signature en décembre dernier d'un accord de coopération qui touche tous les secteurs, accord qui devait justement entrer en vigueur au printemps 2022.
Alors Alban, est-ce que cette élection française intéresse les Italiens et est-ce que les Italiens ont choisi leur camp? Tout à l'heure, Julien Gasparuto à Bruxelles nous disait que tous les Belges étaient pour Macron, mais est-ce qu'en Italie, les sensibilités sont différentes ?
Alors, est-ce que l'élection française intéresse ? Oui, elle passionne les Italiens, moi on m'en parle systématiquement. Pour autant, est-ce qu'ils sont tous rangés derrière Emmanuel Macron ? Non, parce que clairement, il y a un camp souverainiste, nationaliste en Italie, derrière la Ligue de Matteo Salvini, ou le parti qui s'appelle Fratelli d'Italia de Mme Meloni, et ces gens-là sont plutôt du côté de Marine Le Pen, très clairement. Donc l'élection française, elle divise profondément les Italiens.
Alors l'Italie a eu à sa tête, enfin pas à sa tête, mais Matteo Salvini a été l'homme fort du gouvernement italien de 2018 à 2019. Est-ce qu'on peut dire que Matteo Salvini, c'est un peu le Marine Le Pen à l'italienne ? Et est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que vous avez vécu, vous, l'Italie a fait l'expérience de ce que c'est que d'avoir un populiste à la tête du gouvernement ?
Alors je vais vous répondre oui et oui. Oui, l'Italie a effectivement eu l'expérience d'un populiste à la tête du gouvernement, puisque lorsque Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur, il était même vice-premier ministre, vice-président du Conseil. Ça veut dire qu'il avait vraiment beaucoup de pouvoir, d'autant que son parti était le parti pivot du gouvernement. Et on se souvient de la situation en Europe. L'Italie était globalement isolée dans le camp européen. Vous vous souvenez même qu'au début de l'année 2019, l'ambassadeur de France avait quitté de manière symbolique la ville de Rome, était rentré à Paris pour consultation parce que les relations entre l'Italie et la France étaient arrivées à un niveau de conflictualité rarement vu en Europe. Alors ce qui s'est passé ensuite, c'est que Matteo Salvini a pensé pouvoir prendre le pouvoir pour lui tout seul. Il a voulu faire exploser en quelque sorte la coalition à laquelle il appartenait avec le mouvement 5 étoiles. Et puis, renversement politique comme seule l'Italie la connaît. Le mouvement 5 étoiles s'est allié avec la gauche et Matteo Salvini s'est retrouvé minoritaire. Et depuis septembre 2019, il n'est plus ministre de l'Intérieur. Et là, actuellement, il soutient le gouvernement de Matteo Draghi, mais il n'a plus de rôle actif dans la gestion de l'Italie.
Chloé Ridel, Alban Micosi rappelait à l'instant au combien l'Italie avait été ostracisée quand elle avait Matteo Salvini en vice-premier ministre du gouvernement. Est-ce que Marine Le Pen, présidente de la France serait, serait un peu isolée et vivrait des moments un peu de solitude lors des sommets européens ?
Ça, j'y crois pas, parce que la place de la France est si importante en Europe qu'on ne peut pas ignorer. C'est comme un éléphant dans la pièce.
On ne peut pas le bouder, quoi.
On ne peut pas le bouder, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire avec. Mais peut-être que l'élection de Marine Le Pen redonnerait un peu de main à Matteo Salvini en Italie, qui a perdu quand même du terrain depuis l'élection de Mario Draghi. Il fait même partie de sa coalition. C'est comme si vous aviez le RN en coalition avec En Marche à l'Assemblée nationale. Bon, c'est un système politique différent.
C'est vrai que ça paraissait incroyable.
Voilà, mais donc peut-être que ça lui redonnerait un peu de main. Et c'est dommage parce que depuis que Matteo Salvini n'est plus membre du gouvernement, il y a eu des grands progrès qui ont été faits dans la relation franco-italienne après des années de tension. Il y a un traité qui a été signé, le traité du Quirinale, et les relations entre Mario Draghi et Emmanuel Macron sont excellentes, et je crois que c'est important d'avoir un tandem franco-italien fort en Europe.
Et c'est vrai que Alban Micosi, on a l'impression d'un miroir entre la France et l'Italie, puisqu'on a Matteo Salvini qui renvoie à Marine Le Pen, et on a un Mario Draghi. Alors lui, il n'était pas banquier chez Rothschild, il était banquier chez Goldman Sachs. Il a dirigé la Banque Centrale Européenne. Il a un profil très Emmanuel Macron, au fond. Est-ce qu'on peut faire ce miroir dans le personnel politique italien et français ?
Oui, mais il se retient. Vous observerez qu'il se retient de toute prise de position publique depuis dimanche dernier sur la question des élections françaises. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, il n'a pas besoin de s'exprimer. Tout le monde sait que Mario Draghi penche du côté d'Emmanuel Macron, que la relation avec la France est effectivement bien meilleure. Le traité du Quirinal est vraiment le signe de cette relation qui s'est clairement améliorée. Oui, mais Mario Draghi, il a besoin de sa coalition. Il n'a pas la majorité au Parlement italien si la Ligue se mettait à voter contre le gouvernement. Voilà pourquoi Mario Draghi reste silencieux. Tout le monde sait qu'il soutient Emmanuel Macron. Oui, mais il ne le dit pas.
Vous avez fait l'expérience de Matteo Salvini, vous avez fait aussi l'expérience de Matteo Renzi, qu'on avait un peu présenté à l'époque comme... c'était avant Emmanuel Macron, mais on disait beaucoup qu'Emmanuel Macron s'était inspiré de Matteo Renzi, finalement. Et l'Italie est revenue de ces deux personnages qui ont fait pchit, et qui ont dans l'histoire politique.
C'est vrai, d'abord dans la forme, c'est vrai que Matteo Renzi apportait un coup de jeune, un coup de nouveauté, il voulait mettre à bas les partis traditionnels, il disait que tout ça c'était l'ancienne époque, la politique de l'ancienne époque, c'est des mots qui nous disent quelque chose en France. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que lui-même, petit à petit, a perdu de son aura, de sa valeur. Alors il dirige toujours un groupe politique, mais relativement peu important, même si ce groupe a un rôle central au Parlement. Un groupe peu important parce qu'il est devenu impopulaire. Les Italiens trouvent que c'est une personne qui a changé plusieurs fois d'avis, plusieurs fois de coalition, et finalement que c'est un politique professionnel. Et finalement, il a fait à peu près l'inverse de ce qu'il avait dit. Il a dit qu'il allait rénover la politique, et finalement, lui-même s'est livré à des coalitions diverses, variées, a changé d'avis, changé d'alliance. Et aux yeux des Italiens, il est devenu incompréhensible. Et devenant incompréhensible, il a perdu de sa valeur. Quant à Matteo Salvini, pour l'instant, il est lui aussi un peu démonétarisé, si on peut utiliser ce terme, notamment parce qu'encore plus à droite, il y a Mme Meloni, le parti Fratelli d'Italia, qui est en train petit à petit de prendre le dessus sur Matteo Salvini.
Merci beaucoup Alban Micosi et bon week-end de Pâques à Rome. Pendant que vous parliez, il y avait de magnifiques images de Rome qui donnaient envie d'aller y passer le week-end, comme dirait Étienne Dao. Chloé Ridel, on va revoir tout à l'heure, on était en Allemagne, ce tweet d'Armin Laschet. Armin Laschet, c'est l'ancien leader de la CDU. Il dit que cette élection en France, elle est plus importante pour l'Europe que l'élection allemande. Est-ce que quand même, dans 10 jours, l'avenir de l'Union européenne peut prendre une direction ou une autre ?
Bien sûr, c'est absolument l'enjeu de cette élection. Armin Laschet a raison de le dire. Pourquoi c'est plus important une élection présidentielle française qu'une élection législative allemande ? C'est parce que la France, non seulement est un grand pays, presque autant que l'Allemagne, mais elle a cette habitude de donner les impulsions, d'être à l'initiative en Europe. Et donc si on perd ce moteur français-là, qu'est-ce qui va advenir de l'Europe ? Peut-être que les Allemands ont peur de devoir, eux, prendre le leadership alors qu'ils n'en ont pas du tout l'habitude. Mais effectivement, cette élection présidentielle française déterminera
où tombera, de quel côté tombera l'Europe.
Merci beaucoup Chloé Ridel, directrice adjointe de l'Institut Rousseau. Merci d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Bon week-end et à lundi.